8h sur Europe 1.
Cette impression de liberté, c'est indispensable pour tout humain. Parce que sinon, on attend quoi, la mort ?
L'avenir des EHPAD en question. Ne pas enfermer, mais s'ouvrir sur la cité. Ne pas parler de résidents, mais d'habitants. Au-delà des mots, c'est le modèle tout entier des établissements pour personnes dépendantes qui est remis en cause après la crise sanitaire. Il veut capter des signaux faibles auprès des Français pour mieux préparer 2022. Emmanuel Macron entend les critiques sur les éoliennes, les horaires de train ou les compteurs Linky. Il sera aujourd'hui dans la Drôme. Et puis à la plage, si vous pensiez que l'eau dans laquelle vous vous baignez était parfaitement contrôlée, 50 associations le disent, la présence de pesticides, d'algues toxiques et de microplastiques n'est pas contrôlée. Le journal de Roland-Garros à suivre. Et votre interview politique, Sonia Mabrouk à 8h15. Bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Mon invité, le député du Nord et coordinateur de la France Insoumise, Adrien Quatennens. La polémique ne retombe pas après les propos de Jean-Luc Mélenchon qui tente d'allumer un contre-feu. Entretien vérité, nous le verrons à 8h15.
Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, bonjour François Geffrier.
Bonjour, qu'avons-nous fait de nos aînés pendant cette crise ? D'abord, grandes victimes de l'épidémie, 40 000 morts en EHPAD, puis ils ont subi l'enfermement avant de bénéficier prioritairement enfin des vaccins. Le Covid aura au moins permis de remettre en question pour l'avenir ce modèle des EHPAD. Le groupe de réflexion, habilement nommé Matière Grise, vient de publier son rapport sur le sujet.
Bonjour Victor Delande.
Bonjour.
D'abord un constat, on assimile trop souvent ces établissements à des lieux d'enfermement, à des lieux de contrainte.
Oui, au nombre d'œils dus au coronavirus s'est ajoutée l'épreuve de l'isolement en chambre pour les 600 000 résidents d'EHPAD du pays. Un protocole sanitaire très strict les a éloignés de leur famille. Cet isolement, Madeleine, qui vit dans une maison de retraite des Yvelines, l'a particulièrement mal vécu. Pour elle, l'EHPAD de demain devra donner plus de liberté aux personnes âgées.
Les gens arrivent là, ils attendent quoi ? Le déjeuner, après ils dorment et après ils attendent le dîner. Si c'est ça la vie, même s'ils n'en profitent pas parce qu'ils n'ont personne à recevoir, mais qu'ils ne se sentent pas brimés. Je crois que cette impression de liberté, c'est indispensable pour tout humain. Parce que sinon, on attend quoi, la mort ?
Elle aimerait aussi pouvoir avoir plus de choix dans les activités du quotidien, rencontrer plus de monde, imaginer davantage de connexions intergénérationnelles avec des visites d'école par exemple. Bref, Madeleine veut avoir l'impression de vivre chez elle tout en étant sécurisée dans un EHPAD.
Oui, vous dites vivre chez elle, Victor, c'est très important. Il y a une réflexion sur le terme de résident. Est-ce qu'on pourrait l'éviter ?
Oui, et préférer le terme habitant qui vivent et imposent leurs propres règles plutôt que de répondre du matin au soir aux exigences de l'établissement. Les auteurs de ce rapport préconisent notamment que les habitants puissent choisir leur menu, l'horaire des repas et l'heure des visites. Luc Broussy, cofondateur de Matière Grise à l'origine de ce rapport, esquisse l'EHPAD des années 2030.
L'EHPAD de demain, ça doit être un EHPAD qui est totalement au service du résident qui vient y terminer sa vie. C'est un EHPAD qui doit ressembler le plus possible dans ses espaces, dans son architecture, à un domicile, à quelque chose de convivial. Et puis l'EHPAD, ça doit être enfin quelque chose de totalement ouvert sur la cité, sur son quartier, et que ne ce soit pas, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui, des endroits un peu repliés sur eux-mêmes.
Ce rapport propose également la possibilité d'étendre l'EHPAD plateforme, c'est-à-dire que des personnes qui vivent encore à leur domicile pourraient très bien se rendre dans un EHPAD juste pour y recevoir des soins ou pratiquer des activités culturelles. Autant de pistes qui pourront servir de base de réflexion pour la réforme sur le grand âge qu'Emmanuel Macron a promis avant la fin de son quinquennat.
Les EHPAD à l'horizon 2030, donc plus ouverts sur la ville. Dossier complet signé Victor Delande, spécialiste santé d'Europe 1. Merci.
Un espoir scientifique aux États-Unis, on en parlait dans le journal de 7h, avec l'autorisation délivrée à un médicament contre la maladie d'Alzheimer. C'est une première depuis 2003, il s'appelle Aduhelm et il s'attaque au mécanisme même de la maladie et non pas à ses symptômes. En France, la nouvelle étape demain du déconfinement et tous ces lieux qui vont reprendre leur activité. La liste est longue comme une file d'attente de montagnes russes. Les parcs d'attractions donc, les salles de sport, les bowling, les casinos, les salons et les foires, les salles de restaurants aussi, bien sûr. C'est auprès des restaurateurs que sera Emmanuel Macron dans la Drôme aujourd'hui. Deuxième étape de son Tour de France après le Lot la semaine dernière.
Le président disait vouloir prendre le pouls du pays. Jean-Rémy Baudeau, le but de ce périple est en réalité plus précis, encore plus stratégique que cela.
Oui, car aller sur le terrain ne suffit pas. Souvenez-vous de l'itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron. Novembre 2018, à l'époque, il rencontre des milliers de Français sur les routes pendant une semaine et ne perçoit pas la colère des Gilets jaunes qui éclatera deux semaines plus tard. Ce tour de France, c'est donc retrouver la réalité actuelle du pays, théorise un conseiller. Mais en coulisses, l'Élysée travaille surtout à repérer les signaux faibles, ces colères qui peuvent s'agréger et devenir une menace politique. Les compteurs Linky, les cantines scolaires, les horaires de train, autant de sujets de la vie quotidienne comme autant d'irritants. Les éoliennes, ceux qui n'ont que le paysage pour patrimoine, ils ne les acceptent pas, cite en exemple un proche du président. Emmanuel Macron et ses équipes notent donc tous les sujets lors des réunions avec les élus comme lors des bains de foule. Un double enjeu pour le chef de l'État, éviter le piège d'une fronde populaire ou sociale pour sa dernière année de quinquennat et nourrir son futur programme en tentant de répondre à ses colères.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
C'est demain également que les touristes étrangers seront de nouveau officiellement les bienvenus en France.
Oui, ça s'annonce d'ailleurs comme une compétition entre pays européens. Chacun a placé son curseur à sa manière sur le vaccin, sur les tests de dépistage. Il suffit d'un antigénique pour se rendre en Espagne, dont les frontières ont rouvert hier aux touristes. Barcelone se remplit déjà. Henri de la Guérie.
Place de Catalogne, en haut de la célèbre Rambla, les touristes sont de retour. On les repère avec leur appareil photo autour du cou ou avec des sacs de courses à la sortie des magasins de prêt-à-porter. On entend beaucoup parler français.
Ça fait du bien de partir de chez soi, se changer les idées, pouvoir en fait revoir les gens un peu vivre et voilà, pouvoir profiter des terrasses, plages, le beau temps.
Ça fait plaisir. Bah, on voit que les gens ils sont heureux, il y a du soleil et tout est ouvert. Non, vraiment, ça fait plaisir.
Depuis hier, les portes de l'Espagne sont grandes ouvertes, ou presque. Objectif, relancer le tourisme, un secteur décisif ici qui représente 13% des emplois. En bord de mer, le Gallito tourne de nouveau à plein régime. Plus aucun des 30 employés de ce restaurant n'est en chômage partiel. Et c'est un soulagement pour Malou Gomez, la gérante.
Le tourisme est très important et Barcelone en a vraiment besoin. La ville a beaucoup souffert, alors c'est incroyable que tout le monde puisse enfin venir. Ça nous donne du travail, je peux embaucher du personnel, c'est super pour tout le monde. Mais la compétition sera rude. Le Portugal est en pleine croissance, on aura de la concurrence.
Et c'est pour ça que le gouvernement a lancé une immense campagne de communication sur les réseaux sociaux avec ce slogan en plusieurs langues. Vous méritez l'Espagne. Barcelone, Henri de la Guérie, Europe 1.
Aux États-Unis, un mois après la pénurie d'essence sur la côte Est causée par une cyberattaque contre des oléoducs, le FBI a réussi à récupérer 2,3 millions de dollars. C'est la moitié seulement de la rançon qui avait été versée aux pirates informatiques. Rançon payée et récupérée en bitcoin. Mais entre-temps, le cours de la crypto-monnaie a chuté de moitié.
Ce mardi est la journée mondiale de l'océan. Et à quelques semaines des vacances, on va regarder de plus près l'eau dans laquelle nous nous baignons.
Elle est d'excellente qualité, Sébastien, dans 79% des sites de baignade en France. Analyse contestée, Virginie Salmen, par une cinquantaine d'associations.
Oui, sur une plage, l'eau de la zone de baignade est prélevée une à deux fois par semaine en moyenne pendant tout l'été pour être testée. Le problème, selon Sarah Hatimi, chef de projet qualité de l'eau et santé chez Surfrider, c'est qu'on ne recherche ni les polluants, ni les algues, ni les déchets plastiques pour évaluer la qualité de l'eau.
On fait des analyses uniquement bactériologiques, donc les deux seuls paramètres qui sont étudiés. Ces deux bactéries. Ce qui se passe, c'est qu'on peut aujourd'hui avoir une plage qui est jonchée de déchets sur laquelle il y a la présence d'algues qui sont parfois toxiques, éventuellement aussi des hydrocarbures présents. Et en fait, comme les deux bactéries qui sont recherchées ne sont pas présentes, le classement va pouvoir quand même être excellent.
Plus de 50 ONG ont déposé il y a quelques jours à la Commission européenne une demande de révision de la directive de 2006 qui encadre la surveillance de la qualité des eaux de baignade partout en Europe. Elle réclame des mesures microplastiques, des résidus de pesticides ou encore d'engrais.
Virginie Salmen, spécialiste environnement d'Europe 1. Et puis, vous pourrez dire autour de vous que vous avez appris ce matin sur Europe 1 l'existence du rotifère d'Eloïde, un animal microscopique qui est revenu à la vie après avoir été congelé pendant 24 000 ans en Sibérie, annonce de scientifiques russes, qui ajoute aussi qu'il a réussi à se reproduire tout seul. Je vous le répète, un rotifère d'Eloïde.
Le rotifère d'Eloïde. Bon, c'est Hibernatus, votre histoire. 8h08 sur Europe 1. Vous restez avec nous à suivre. Roland Garros en direct, le journal de Roland Garros avec Corinne Boulou.
Europe 1, le journal de Roland Garros.
8h10, direct sur la porte d'Auteuil. Bonjour Corinne Boulou.
Bonjour Sébastien.
C'est un court très spécial pour moi. C'est toujours incroyable de jouer ici, de jouer avec un joueur très bon, avec un grand futur. Et je suis très, très content pour la victoire.
Le cours central de Roland-Garros est effectivement un cours très spécial pour Rafael Nadal, celui de tous ses exploits, qui a vu hier sa 15e qualification en quart de finale après avoir balayé en 3-7 le jeune Italien de 19 ans, Jannik Sinner, qui lui succédera peut-être dans le futur.
Le chiffre du jour, Corinne, c'est 5.
C'est la 5e fois, oui, dans sa carrière que Novak Djokovic remporte un match après avoir été mené 2-0. Le numéro 1 mondial a même bénéficié de l'abandon de son adversaire victime de crampes dans le 5e set.
La perf du jour pour la Benjamin du tournoi.
En effet, Coco Gauff est devenue la plus jeune joueuse à rallier les quarts de finale depuis la Tchèque Nicole Vejdízová il y a 15 ans. L'Américaine de 17 ans a réussi cette performance sans perdre un set.
Le quart de finale du jour opposera le grec Tsitsipas au russe Medvedev.
Oui, c'était même l'affiche d'une demi-finale au dernier Open d'Australie. Notre consultant Cédric Pioline a sa petite idée sur cette affiche qui s'annonce explosive entre le russe numéro 2 mondial et le grec 5e.
Oui, quand on voit l'affiche, il y a une petite excitation qui monte. C'est vrai que ça pourrait devenir un classique du futur. Ils se sont joués cette année en demi-finale du premier Grand Chelem à Melbourne où c'était le russe qui l'avait remporté. Ici, je dirais que peut-être Tsitsipas, pour moi, est légèrement favori au vu du jeu qui développe et puis de la superbe forme qu'il affiche sur terre battue depuis Monte Carlo qu'il avait remporté. Donc je dirais un petit 51-49 en faveur du grec.
Ils sont deux grecs en quart de finale dans le tournoi avec Maria Sakkari dans le tableau féminin et deux russes également avec la présence d'Anastasia Pavlyuchenkova.
Corinne Boulou avec Cédric Pioline pour suivre ce tournoi sur Europe 1, Europe 1 radio officielle de Roland-Garros. Vous ne raterez rien tout au long de cette journée. Il est 8h12 sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
À suivre, Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Adrien Quatennens, coordinateur de la France Insoumise et député du Nord. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
Il est 8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité politique, le coordinateur de la France Insoumise, Adrien Quatennens.
Bienvenue à vous et bonjour Adrien Quatennens.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Êtes-vous capable ce matin de vous montrer insoumis ?
Ben dites-moi, insoumis à quoi ? Oui, insoumis à cet ordre injuste, insoumis à la concentration de richesses entre quelques mains, à l'extension de la pauvreté, à cet ordre social injuste, bien sûr, je le suis.
Insoumis par rapport à votre chef, est-ce qu'après réflexion et en responsabilité, vous vous désolidarisez ce matin des propos de Jean-Luc Mélenchon ?
Non, mais je vais vous dire pourquoi, si vous me permettez de l'expliquer. D'abord, avoir un premier mot pour toutes les victimes des actes terroristes, qui, et d'ailleurs notamment Madame Latifa Ibenziaten, dont j'ai bien vu qu'elle avait réagi et dont l'émotion, je le sais, n'est pas feinte. Dire que si, avec cette polémique et cette manipulation des propos de Jean-Luc Mélenchon, on y reviendra, pourrait penser que Jean-Luc Mélenchon minore la gravité des attentats, lui qui a toujours trouvé les mots justes, notamment lorsque le pays était attaqué, vous vous en souvenez, Sonia Mabrouk, ou que il pense et il laisserait croire que les attentats seraient des complots politiques, évidemment, ça n'est pas le sujet. D'ailleurs, Sonia Mabrouk, remarquez que dans cette interview très longue de Jean-Luc Mélenchon, près d'une heure, dont il ne reste ce matin plus que 30 secondes, les journalistes qui étaient quatre de vos confrères sur le plateau n'ont pas repris Jean-Luc Mélenchon sur ses propos parce que pour eux, ils ne souffraient pas d'ambiguïté. Ce ne sont pas des journalistes nés de la dernière pluie, ils sont assez expérimentés. Donc je vois une nouvelle fois qu'on a en quelque sorte voulu faire dire autre chose à Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il a véritablement voulu dire. Et peut-être on y viendra aussi, je vois d'où ça vient. C'est-à-dire que les journalistes ne l'ont pas relevé, mais on voit que certaines sphères ensuite sur les réseaux sociaux, ont essayé de manipuler ses propos
Madame
pour lui faire
Latifa,
dire autre chose.
Madame Latifa Ibenziaten, puisque vous l'avez citée, l'a relevée elle-même. Elle a parlé de propos insupportables. La famille Sandler l'a relevée en qualifiant cela aussi d'insupportable. Est-ce que ce matin, M. Quatennens, c'est vraiment, je vous le dis, en responsabilité, puisque vous avez dit, je veux dire un mot aux familles des victimes, mais est-ce que vous leur demandez pardon ce matin ?
Mais je demande à ces familles de m'entendre ce matin à ce micro s'ils nous écoutent. En leur disant qu'il est évident, et d'ailleurs, Sonia Mabrouk, vous le croyez, vous, que Jean-Luc Mélenchon pense que les attentats sont des complots politiques ?
C'est pas ma question.
Non, mais moi, c'est la mienne, je vous réponds.
Est-ce que vous leur présentez vos excuses ? Qu'une mère de militaire assassinée par Mohamed Merah, que la famille Sandler trouve cela insupportable, est-ce que vous, éloignez-vous des propos de Jean-Luc Mélenchon et en responsabilité, est-ce que c'est pas l'honneur d'un responsable politique de demander pardon ?
Mais ça me dérange s'ils sont choqués, s'ils ont été touchés par cette polémique, mais je leur demande d'entendre, y compris s'il le faut, de revoir la séquence de Jean-Luc Mélenchon, et que personne ne peut raisonnablement penser que Jean-Luc Mélenchon aurait dit en quelque sorte que les attentats sont des complots politiques ou auraient minoré leur gravité.
Donc pas d'excuse ce matin.
Mais de la même manière, Sonia Mabrouk, à chaque fois qu'il y a eu un attentat dans notre pays, Jean-Luc Mélenchon, vous souvenez par exemple au moment de la mort du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, a eu des propos absolument magnifiques qui ont fait se lever tout le monde dans l'hémicycle.
Parlons de ces propos.
Quant
pourquoi
au Bataclan, etc.
Monsieur
à chaque fois qu'il y a des attentats, vous savez qu'il a été très clair.
Non.
Si.
Non. Je vais vous les citer, vous allez me dire en quoi il a été clair, parce qu'il ne parle quasiment jamais, d'attentat islamiste. Après l'attentat islamiste de Rambouillet, Jean-Luc Mélenchon évoquait, je cite, un meurtre révoltant. Après l'attaque islamiste contre Samuel Paty, Jean-Luc Mélenchon a tweeté parlant d'ignoble crime et ciblé la communauté tchétchène. Après l'attentat dans la basilique de Nice, il ne nomme pas encore ce qui tue, le terrorisme islamiste, monsieur Quatennens. Pourquoi ne le dit-il pas ?
Sonia Mabrouk, vous avez une manière de regarder les interviews de Jean-Luc Mélenchon à géométrie variable.
Donc, je vous rapporte. Vous êtes complotiste dans l'âme, monsieur.
Non, mais pas du
Quatennens.
Tout. Mais donc, citation pour citation, Sonia Mabrouk. Regardez, par exemple, il y a encore quelques semaines, chez votre collègue d'LCI, Amélie Carouer, Jean-Luc Mélenchon disait, et je m'étonne que vous ne l'ayez pas relevé, parce que ça devrait vous intéresser, vous particulièrement, il a dit « Les islamistes politiques, je le cite, doivent savoir que moi et mes amis seront toujours leurs adversaires les plus résolus. » Sonia Mabrouk, vous savez que, y compris c'est Jean-Luc Mélenchon qui a des amis dans un pays que vous connaissez bien, qui ont été assassinés par les terroristes islamistes. Je pense par exemple à Chokri Belaïd ou Mohamed Brahmi, et Jean-Luc Mélenchon s'y était déplacé. Lorsqu'il y a eu Charlie Hebdo, lorsqu'il y a eu les Bataclan, on se souvient de cette émission où Jean-Luc Mélenchon était à côté d'Edouard Philippe, il a toujours eu des propos très clairs. Alors si on peut par contre venir sur le fond de son propos...
Alors non, pardonnez-moi, je voudrais continuer. Comment peut-on dénoncer l'islamisme,
écoutez-moi,
soutenir celles et ceux, comme vous le dites, qui sont la cible, et en même temps avoir manifesté aux côtés des promoteurs de ce même islamisme quand le CCIF, proche des frères musulmans, aujourd'hui dissous, défilé dans les rues au cri d'Allah
Akbar. Je commence par vous répondre là-dessus, comme ça.
Elle a existé, cette manifestation, vous y étiez.
Sonia Mabrouk, quand la polémique naît sur les propos de ce week-end, ça vient d'une mouvance qui porte très mal son nom, de mon point de vue, qui s'appelle le Printemps républicain. Vous connaissez bien.
Ibn Ziaten en fait partie.
Non, attendez, écoutez-moi.
La famille Sandler en fait partie.
Vous allez me laisser vous répondre, même si ce que j'ai à vous dire fait siffler un peu vos oreilles.
Je suis étonnée que vous associez, pardonnez-moi, mais je vous demande, est-ce que Madame Ibn Ziaten, qui a trouvé un supporter,
vous voulez faire l'émission toute seule, Sonia Mabrouk ? Laissez-moi vous répondre. Je vous dis qu'il y a 4 journalistes sur le plateau qui ne relèvent pas les propos de Jean-Luc Mélenchon parce qu'ils comprennent bien ce qui est en cause. Peut-être qu'après, on pourra parler de l'instrumentalisation politique des attentats. En revanche, regardez, quand vous avez une mouvance qui s'appelle le Printemps républicain, dont un des premiers tweets vient de M. Sifaoui. M. Sifaoui, qui donc se prétend être un républicain, est celui qui, sur Twitter, quand M. Raphaël...
Qui est cible régulière de menaces, je le précise également.
Bien sûr,
mais je ne vous ai pas entendu vous indigner à ce moment-là.
Je condamne absolument toutes les menaces, Sonia Mabrouk, sans géométrie variable. Toutes, absolument. Quand M. Sifaoui, sur Twitter, à M. Raphaël Enthoven, un philosophe que vous connaissez, qui a d'ailleurs déclaré hier sur Twitter qu'entre M. Mélenchon et Mme Le Pen, il choisirait Mme Le Pen. Lui propose à ses amis d'aller boire un verre en terrasse. M. Sifaoui, donc du Printemps républicain, dit oui, d'ailleurs, on peut maintenant être 6 en terrasse et je recommande de se tenir avec une bonne distanciation sociale des femmes voilées. C'est un propos que vous trouvez républicain, Sonia Mabrouk, pas moi.
Pourquoi
la
vous
même
allumez
manière, attendez,
tant
laissez-moi
de contre-feu,
terminer,
monsieur Quatennens, mais vous,
Mabrouk,
me parlez,
non, attendez,
vous pouvez me parler
attendez,
de tout le monde. Mon interview est sur les propos de Jean-Luc Mélenchon,
oui,
de vous en déplaise également.
Ces propos ont été en quelque sorte détournés
par
pour les faire dire
je vous
autre
le répète,
chose.
Quand Madame Latifa Ibn Ziaten et la famille Sandler trouvent cela insupportable.
Mais je vous ai dit, Madame, que si les propos avaient été incompris, c'est regrettable. Et je demande à Madame, et je lui adresse solennellement ce message, à Madame Latifa Ibn Ziaten, je vous demande, Madame, si vous voulez bien m'entendre, de comprendre que Jean-Luc Mélenchon ne minore pas ni la gravité des attaques, qu'il s'est toujours trouvé à vos côtés comme nous le serons toujours face aux attaques terroristes, quelles qu'elles soient.
Pourquoi dit-il que ça stigmatise les musulmans ? Moi,
alors,
je ne comprends pas très sincèrement.
Parce que ça, c'est vos sujets permanents. Mais d'abord,
pourquoi
ça m'abroute juste dire une chose. Vous parlez de complotisme à l'égard de Jean-Luc Mélenchon. Mais quand le journal The Independent, britannique par exemple, dit que Madame Le Pen, en 2017, lorsqu'il y a eu l'assassinat de ce policier, une attaque terroriste sur les Champs-Élysées, a tenté de l'instrumentaliser. Personne n'a dit que le journal The Independent faisait du complotisme. Quand vos collègues de France Info ont dit que Daesh avait choisi son moment pour commettre l'attentat de Londres. Ce que je veux vous dire, Sonia Mabrouk, c'est que le propos de Jean-Luc Mélenchon mériterait d'être entendu pour ce qu'il veut dire. C'est que les organisations terroristes choisissent aussi leur moment pour peser sur notre démocratie. C'est important de le dire. Et vous savez également, et même si vous n'en êtes pas forcément d'accord, les terroristes, Sonia Mabrouk, ont théorisé le fait qu'en plus des attentats et des morts qu'ils provoquent, et nous avons toujours été du côté des victimes, vous le savez, vous ne pouvez pas dire l'inverse, ils cherchent à diviser le peuple français
Monsieur
en retour.
Quatennens,
et Jean-Luc Mélenchon
le doute.
A
écoutez-moi,
toujours eu les propos
écoutez-moi.
Pacificateurs semez d'appel
le doute,
à la raison.
Semer le doute n'est-il pas pire que de dire de fausses vérités ? Pourquoi Jean-Luc Mélenchon a-t-il dit que les attentats commis avant la présidentielle, peu importe le moment, sont là pour montrer du doigt les musulmans ? Je ne comprends
mais
pas
voyez,
en quoi
là,
les
y a
attentats...
Il
j'ai
pas
terminé
dit...
ma question.
Oui, mais...
En quoi les attentats islamistes stigmatisent les musulmans puisqu'ils sont commis par des islamistes.
Mais vous avez raison, d'ailleurs, rappelons ensemble, Sonia Mabrouk, que les musulmans à travers le monde sont les premières victimes du terrorisme islamiste. Et donc Jean-Luc Mélenchon n'a pas dit que les attentats servaient à stigmatiser les musulmans. En revanche, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?
Là encore, on a mal compris.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Sonia Mabrouk, pour dire qu'en revanche, quand il y a des attaques terroristes, certains responsables politiques en profitent, notamment pour stigmatiser les musulmans ? C'est une vérité.
Monsieur
voilà,
Quatennens.
Donc, je voudrais vous le dire aussi. Et je m'étonne ce matin, je vous le dis quand même, même si j'entends qu'il puisse falloir discuter éventuellement de ces propos. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'on a parlé d'un contre-feu à propos de cette vidéo qui a été postée dimanche. Pardon, nous n'avons pas choisi la date. Peut-être qu'il aurait fallu, de votre point de vue, mettre
ce
ça au congélateur.
Ce n'est pas une diversion, ce n'est pas un contre-feu.
Mais est-ce que ce ne serait pas un peu du complotisme de votre part,
c'est-à-dire
que de le penser ?
Alors
mais
pourquoi vous ne dénoncez pas, M. Quatennens, toutes les menaces d'où qu'elles viennent ? Quand certains militants
toujours.
Qui ont été candidats... Ah bon ?
Toujours.
Qui ont été candidats sous la bannière de la France insoumise aux législatives, à l'instar de Taha Bouaf, mettent symboliquement à la tête de Marine Le Pen au bout d'une pique, moi je ne vous ai pas entendu vous insurger.
La violence n'a pas sa place en politique.
Vous le dites aujourd'hui, vous ne l'avez pas dit
et...
à ce moment-là, M. Quatennens, ni M. Mélenchon.
Jean-Luc Mélenchon, toujours.
Vous ne dénoncez pas les menaces d'où qu'elles
viennent. Jean-Luc Mélenchon, toujours, à chaque occasion, a redit que la violence n'avait pas sa place en politique. Moi, je m'étonne ce matin, je vous le dis, Sonia Mabrouk, que, alors que l'on découvre qu'une vidéo a été postée dimanche par un individu d'extrême droite qui simule dans une vidéo l'assassinat d'un mannequin censé représenter un électeur de Jean-Luc Mélenchon, et qui, dans une vidéo, explique comment se fournir une arme. Je m'étonne que l'on en soit encore à commenter les propos de Jean-Luc Mélenchon, dont d'ailleurs vos confrères ne les avaient pas relevés.
Pourquoi ?
Alors, vous parlez
pourquoi
d'un contre-feu.
Attendez, les propos,
ça m'intéresse parce que vous nous
Quatennens.
Suspectez en quelque sorte, ou en tout cas, à demi-mot, vous nous accusez de complotisme. Mais est-ce que vous-même, Sonia Mabrouk, en disant que le fait d'avoir réagi à cette vidéo d'extrême droite serait un contre-feu, est-ce que vous-même ne versez-vous pas dans le complotisme ?
Oui, Quatennens,
parce que cette vidéo, attendez, elle a
exemple.
Été postée, elle
non,
a été postée dimanche.
Qu'on soit tous complotistes,
et c'est
mais
important, et moi j'invite toutes celles et ceux qui le pourront à porter plainte contre cela, parce que c'est grave, Sonia Mabrouk, quand même, de.
Ouais,
d'avoir
savez,
ce type d'appel
vous
au
savez que les familles
que
des victimes,
que, attendez,
la famille Sandler
savez,
va également porter plainte probablement.
Oui, mais écoutez, on s'en expliquera et peut-être que ce sera l'occasion d'une nouvelle énième clarification. Mais Sonia Mabrouk, ce matin, le fait que ces menaces de mort contre des militants politiques qui participent d'un climat détestable dans le pays ne suscitent pas l'émotion est grave. Et d'ailleurs, je vais vous le dire, il y a quelqu'un que vous connaissez bien, Sonia Mabrouk, qui a dit de Papacito, ce monsieur qui vient donc de simuler cet, en quelque sorte, appel au meurtre, qui a déclaré, parce que c'est votre profession, ça va vous intéresser, cet homme a déclaré que s'il fallait tuer 20 000 journalistes pour sauver 70 millions de Français, alors il ne fallait plus hésiter.
Monsieur Quatennens,
j'entends même pas votre profession.
Est-ce que vous dénoncez les menaces ? Non, non, attendez-moi.
Est-ce
que vous dénoncez les menaces d'où qu'elles viennent ? Je vous donne un exemple.
Est-ce que vous savez qui a dit de Papacito qu'il était un homme intelligent, cultivé et talentueux ? Vous savez qui c'est ? Oui, et aussi Madame Zineb El-Razaoui, que vous connaissez pour avoir eu un portrait commun avec elle. Donc tout ça n'est pas très républicain, permettez-moi de vous le dire.
Est-ce que vous vous indignez ?
Est-ce que vous condamnez, Madame Sonia Mabrouk, ce qu'a fait M. Papacito ? Est-ce que vous condamnez ? Dites-le-moi.
Monsieur Quatennens, Jean-Luc Mélenchon se plaint d'un climat politique très violent depuis des années. Mais je vous donne un exemple. Quand il a soutenu et a dit sa fascination pour le gilet jaune d'Éric Drouet qui voulait marcher, rappelons-le, sur l'Élysée, est-ce qu'il participe ainsi à l'apaisement de la société ?
Mais quand il a parlé d'Éric Drouet et des gilets jaunes, et je vous le dis tout à fait solennellement, ce qu'il a dit, c'est que ce qui était en train de se passer, participer d'une vérification de la théorie de l'ère du peuple de Jean-Luc Mélenchon, qui consistait à dire que sur un événement fortuit, une goutte d'eau qui fait déborder le vase, et en l'occurrence les gilets jaunes, c'était le carburant et la volonté de M. Macron d'en augmenter le prix, alors que les Français ne parviennent pas à joindre les deux bouts, ça participe des révolutions citoyennes. Entendez-moi, Sonia Mabrouk, Jean-Luc Mélenchon est partisan de la révolution citoyenne, c'est-à-dire avec des arguments et des bulletins de vote, pas avec des bâtons et pas avec des fusils, comme M. Papacito, qui est salué par certaines de vos amies, je dois
mais
le dire,
on
a priori.
Notera, donc, non, mais vous pouvez trouver des amis un petit peu partout, Monsieur Quatennens, mais
la diversion
ne marche pas aujourd'hui.
Comme journaliste engagé, parce que vous revendiquez comme une journaliste engagée.
Engagé contre l'islamisme, je l'espère vous également.
Mais engagé contre l'islamisme
et
contre toutes les formes, toutes les obscurantismes et toutes les formes de violence.
Est-ce que vous dénoncez toutes les menaces,
Est-ce que vous condamnez les propos de Monsieur Papacito et cette vidéo d'extrême droite ?
Ce n'est pas moi qui suis aujourd'hui en interview. Est-ce que vous dénoncez toutes les menaces, Monsieur Quatennens ? Pourquoi, quand je vous ai cité
c'était à Abouafs, il n'y a pas eu à ce moment-là justement une condamnation de M. Mélenchon. Pourquoi, quand il a soutenu Éric Drouet qui voulait marcher sur l'Élysée, il n'y a pas eu à ce moment-là une condamnation?
Mais Jean-Luc Mélenchon n'a pas appelé à marcher sur l'Élysée. Vous voyez,
il a soutenu celui qui le dit.
Mais il a soutenu parce que même malgré ses imperfections, ce mouvement des Gilets jaunes disait quelque chose.
Et que d'ailleurs
vous le découvrez peut-être, Saint-Roch, mais les Gilets jaunes dans ce pays, ils n'ont toujours pas disparu. Hein, ils sont toujours là. Cette France qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, qui entend M. Macron dire qu'on va faire payer la dette aux Français, qu'on va faire plus d'austérité, remettre sa copie à Bruxelles, faire la réforme des retraites que les Français ont refusée. Vous entendez, cette France-là, elle est toujours là.
Mais je voulais parler de la réforme des retraites, mais vous voyez, les propos de Jean-Luc Mélenchon vous empêchent d'être audible sur le sujet.
Non, pas les propos de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas les propos de Jean-Luc Mélenchon, c'est votre décision de consacrer 100% de votre interview, parce que vous êtes maître du temps.
Non, ce n'est pas terminé. Je voulais justement vous faire réagir à la réforme des retraites que souhaite lancer ou relancer Emmanuel Macron. Il ne veut pas que le macronisme rime avec un immobilisme. En quoi il a tort ?
Mais enfin, le problème n'est pas d'être immobile. La question, c'est dans quelle direction nous allons, Sylvain Brouck. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que la productivité ces dernières années a considérablement augmenté et que la richesse produite est très mal partagée. Et qu'à l'heure où l'espérance de vie en bonne santé recule dans ce pays, la question de travailler toujours plus longtemps n'est pas une solution, y compris parce que ça aggrave le chômage de masse. Nous devons y faire face. Partager le temps de travail, notamment par l'âge de départ à la retraite, c'est une solution qui permet de lutter contre le chômage de masse.
Mais dans les sondages, les Français semblent partager. Il n'y a pas d'hostilité forte à une telle réforme des retraites.
Attendez, vous vous souvenez quand même que quand elle a été avortée, cette réforme des retraites, elle avait contre elle un grand mouvement social et 70% des Français qui étaient opposés. Donc parlons-en, je crois que les Français qui ont fait beaucoup d'efforts dans la période du Covid n'entendent pas que ce soit à eux de payer cette crise, y compris à l'heure où les milliardaires de ce pays ont accru leur fortune en pleine pandémie de 55%, pendant que dans le même temps, un ménage sur cinq voyait ses revenus baisser. Voyez-vous, Sylvain Brouck, je regrette en effet, je vous le dis ce matin, qu'on consacre une nouvelle fois une interview
vous
à des propos qui, de mon point de vue, sont manipulés.
Jean-Luc Mélenchon,
non, je regrette qu'ils soient manipulés, qu'on lui fasse dire
vous
autre chose.
Qu'il les ait.
Vous n'avez pas répondu à plusieurs questions et je vous les reposerai pas.
C'est ma fierté, Monsieur Quatennens, d'être engagé
Brouck,
contre les chocs
je me permets de vous dire qu'à mon avis,
notre pays.
À mon avis,
merci
en sincérité,
d'avoir répondu à
vous savez très bien vous-même, Sylvain Brouck, vous le savez, que Jean-Luc Mélenchon ne souffre pas d'ambiguïté sur ces questions.
Et vous savez aussi que si vous le suivez jusqu'au bout, le parti risque évidemment d'en pâtir. Merci,
mais
Monsieur Quatennens.
Bien sûr que non, absolument pas. Il est aujourd'hui notre principal point d'appui sur toutes ces questions-là et je demande simplement que ces
Merci
propos arrêtent d'être manipulés.
Bonne journée,
Merci
ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci, les 8h30 sur Europe 1 à suivre le journal de l'euro. 8h37, on prend soin les uns des autres dans Europe Matin, avec dans un instant le docteur Jimmy Mohamed, notre santé. Bonjour docteur.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Après la pluie, vient les allergies. Allergies qui touchent un Français sur trois et vous allez voir que des solutions simples existent pour en venir à bout.
Et on retrouvera Fanny Agostini pour Notre Planète et bien sûr la revue de presse de Nicolas Canteloup. A tout de suite sur Europe.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
8h39 sur Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed est avec nous, notre santé. Jimmy, le beau temps revient hein, partout en France et ça pique le nez, hein, comme on dit, c'est la période des allergies saisonnières pour beaucoup.
Oui, d'autant plus qu'on considère que 30% de la population est allergique à quelque chose et que le nombre de Français allergiques a doublé en 20 ans. Et d'après l'OMS, en 2050, près d'un habitant sur deux aura au moins une maladie allergique, quelle qu'elle soit. Alors l'allergie la plus connue, c'est la fameuse rhinite allergique ou rhume des foins qui va se manifester par un nez qui coule, les yeux qui grattent avec une conjonctivite ou encore des crises d'éternuement. Et ces symptômes vont revenir de manière cyclique à chaque saison et venir altérer la qualité de vie de ceux qui en souffrent.
Beaucoup prennent justement des anti-allergiques. Est-ce que c'est suffisant ?
Alors on va dire que c'est un bon début, mais je vous rappelle quelques gestes simples comme prendre sa douche plutôt le soir et se rincer aussi les cheveux car les allergènes comme le pollen vont rester coincés sur votre cuir chevelu. Aérez aussi vos pièces au moins 10 minutes par jour, de préférence avant le lever et après le coucher du soleil. Et puis en cas de trajet en voiture, gardez bien les fenêtres fermées pour éviter que les allergènes rentrent. Et puis évitez si possible de faire sécher votre linge à l'extérieur car là encore, tous les pollens vont s'y loger.
Voilà quelques conseils. Que valent les anti-allergiques vendus à la pharmacie sans ordonnance ?
Alors, on les appelle des antihistaminiques. Ce sont exactement les mêmes que ceux que votre médecin pourra vous prescrire sur ordonnance. Ce ne sont donc pas des médicaments au rabais, ils sont tout aussi efficaces. La seule chose, c'est qu'il y en a un peu moins dans la boîte. En général, vous avez une semaine de traitement et qu'ils coûtent un peu plus cher et quand ils ne sont pas remboursés non plus, alors que ceux prescrits par votre médecin traitant le seront.
Très bien. Et du côté de la désensibilisation, ça fonctionne bien ?
Alors oui, mais encore faut-il savoir à quoi vous êtes allergique, car si vous avez de nombreuses allergies, comme par exemple aux acariens, à la poussière et au pollen, eh bien là, la désensibilisation sera moins efficace. Il faut donc dans un premier temps faire des examens pour savoir à quoi vous êtes allergique, et si malgré les mesures proposées, vous avez des symptômes persistants, il est possible de se faire désensibiliser, mais ça se fait en période dite froide, c'est-à-dire pas en ce moment, pas lorsque vous êtes exposé à plein de pollen, plein d'allergies. Il faudra donc anticiper et débuter cette désensibilisation à la rentrée.
Voilà pour plein de conseils ce matin, hein, en pleine période de rhume des foies. Merci à vous, Jimmy Mohamed. On vous retrouve à 15h dans Sans Rendez-vous avec Mélanie Gomez. Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Notre planète avec vous. Vous vouliez vous arrêter ce matin sur le potentiel des algues. Même l'ONU se penche aujourd'hui sur leur intérêt écologique énorme.
Oui, le potentiel des 11 000 espèces qui existent a inspiré l'ONU, des institutions scientifiques et des entreprises à fonder la Safe Seaweed Coalition en mars 2021. Une initiative occidentale qui vient longtemps après la pratique de l'algoculture en Asie, car au Japon et en Corée, cela fait plus de 60 ans qu'on cultive les algues sur des supports flottants. Or, depuis 20 ans, l'algoculture s'accroît au rythme annuel de presque 10% par an pour atteindre aujourd'hui un quart du volume produit par les pratiques aquacoles.
Mais au Japon et en Corée, on les cultive surtout pour un usage alimentaire. Alors pourquoi, Fanny, cet intérêt soudain pour les macro-algues ?
Alors, les macro-algues, qui sont les grandes algues ou les algues géantes, elles peuvent servir d'engrais pour l'agriculture, mais aussi absorber les nutriments déversés dans l'eau par l'agriculture intensive, tout comme le carbone qu'elles arrivent à capter et qui est une aide formidable dans la lutte contre le changement climatique. Elles produisent en prime de l'oxygène. Ajoutons à cela que les champs d'algues amortissent les vagues et diminuent l'érosion du littoral, mais ce n'est pas tout. Elles offrent aussi le refuge, le couvert et le berceau aux autres organismes aquatiques. Elles ont aussi de riches propriétés nutritives pour les humains et les animaux. Et enfin, dernière propriété sûrement la plus précieuse, leurs molécules sont aujourd'hui étudiées car elles pourraient nous permettre de sortir du plastique.
Ouais. Alors pour autant, attention, vous dites qu'il y a un risque que l'algoculture reproduise finalement les mêmes travers que ceux de l'agriculture classique.
Et oui, le premier d'entre eux étant la monoculture. L'occupation de gigantesques espaces par quelques espèces d'algues ultra-productives serait un désastre pour la biodiversité marine à cause de leur vitesse de croissance, mais aussi à cause des parasites qu'elles peuvent porter. L'importation de l'algue wakame en Europe dans les années 80 a par exemple conduit à une hécatombe de la biodiversité locale. Et nous n'avons toujours pas d'idée précise de l'impact écologique global du déploiement de ces grandes cultures d'algues. Tous ces paramètres doivent être étudier avant de se lancer, mais les contours légaux de précautions à prendre sont d'autant plus flous que l'océan n'appartient à personne, contrairement à la terre ferme.
Voilà le potentiel énorme des algues ce matin avec vous, Fanny Agostini. Merci. À demain, 8h44. Il s'installe avec Julie, Nicolas Canteloup pour la revue de presse dans quelques secondes. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
Et à 8h47, c'est l'heure de retrouver la revue de presse de Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on retrouve tout de suite Sébastien Krebs pour les infos du jour.
S'il vous plaît. Stop. C'est à nouveau Mathieu Béliard. Vous avez peut-être reconnu ma voix. Toujours en direct. Direct depuis mes vacances. Sébastien, cher Sébastien, je te réécoute encore ce matin pour le plaisir, mais aussi pour être sûr que t'es quand même pas meilleur que moi. Donc je te rassure, t'es très bien, mais je suis quand même de toute façon rassuré. Je vais faire les titres pour ton deuxième jour. Donc tu regarde, gamin. Okay. Surtout, t'écoutes.
On écoute Mathieu.
Prends la graine. 3-4. Prends des notes, Sébastien. L'info du jour. Allez, l'info du jour, c'est le variant indien. Nous avons parlé ce matin dans l'édition du journal qui inquiète dans les Landes. Ils sont forts, ces Landais. Relancer un variant dans les Landes pour ne pas voir les Parisiens débarquer cet été. Franchement, c'est bien trouvé. Allez.
Pas mal.
L'autre info, vous le savez, c'est le patron d'Amazon, Jeff Bezos, qui s'envolera cet été dans l'espace. Ouais. La vraie question, c'est qui dans l'espace a demandé de se faire livrer Jeff Bezos. Tu vois, Sébastien, ça c'est joli, tu vois, ça donne un côté poétique à l'info. Et puis l'autre info, un peu plus personnelle, Jeff Bezos s'envolera donc cet été dans l'espace. Ça doit être tout là-haut qu'ils ont envoyé d'ailleurs le colis que je n'ai jamais reçu. Tout s'explique.
Alors, donc je m'adresse à eux, s'ils nous écoutent, on a quand même des auditeurs là-bas. Si un alien m'écoute et qu'il a reçu mon Freezer Supermax Babilis, ben, qu'il sache que c'est le mien. Il y a erreur, mais merci de me le renvoyer, c'est sympa.
Ah oui, c'est vrai qu'il a des boucles. Beaucoup de boucles, Mathieu Béliard.
C'est bien d'expliquer, Julie.
Pardon.
Non, c'est bien.
Allez, on enchaîne. Jean-Luc Mélenchon, au centre d'une vive polémique, le leader des Insoumis a déclaré « Vous verrez, dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, que nous aurons un grave incident ou un meurtre pour montrer du doigt les musulmans. » Tout ça, c'est écrit d'avance. Fin de citation. Avant de prendre l'exemple de Mohamed Merah, d'ailleurs. Bonjour, Jean-Luc Mélenchon.
Bon, qu'est-ce qu'il y a? Allez-y, continuez, faites votre métier de menteuse professionnelle, madame. Hein, relais du pouvoir macroniste que vous êtes. Hein. Mais oui, excusez-moi, on détourne mes propos. Adrien Quatennens a très bien dit, j'ai juste voulu dire que certains utilisent l'effet dramatique pour se faire élire, essentiellement l'islam. Est-ce que moi, madame, j'utilise l'islam pour me faire élire? Hein, bon, oui, là, je le fais, là, à l'instant. Mais moi, madame, excusez-moi, moi, c'est en draguant les musulmans, en les critiquant. Excusez-moi, mais il y a une vraie différence. Je manipule les musulmans en étant sympa avec eux.
Ah,
voilà.
Bon, c'est pas mieux, hein, franchement.
Mais écoutez, ouvrez les yeux. Il n'y a plus d'ouvriers dans ce pays à cause de Macron. Hein, avec qui d'autre je peux être démago, à votre avis? Il n'y a que eux qui gobent encore ce que je raconte. Voilà, non, donc enfin, je m'adresse à eux.
Oui, enfin, à vous entendre, vous pensez que Mohamed Merah était téléguidé. On ne comprend pas bien d'ailleurs par qui. Hein. Mais vous dites, tout ça, c'est écrit d'avance. Mais c'est par qui?
Mais par qui? Par eux.
Hein,
ils vont nous inventer un meurtre, un événement. Ils sont capables de tout.
Mais c'est qui, ils?
Le système, allons. C'est complotiste de dire qu'il existe un système, madame. Hein, composé, oui, bien de journalistes, de politiques, de riches et de gens, sachez-le, qui sacrifient des ouvriers régulièrement lors de rituels sataniques à Davos.
Hein,
c'est complotiste de dire ça? Mais non.
Et puis vous êtes insurgé contre eux. Papacito, c'est un youtubeur d'extrême droite qui a publié une vidéo dans laquelle il tire dans la tête de mannequins qu'il qualifie de gauchistes et d'électeurs de votre parti. Et vous dénoncez un appel au meurtre.
Oui, alors à ce propos, je voulais ici sur votre antenne, si vous permettez.
Oui.
Peut-être que vous ne
allez-y,
permettez pas,
hein,
puisque
si,
Adrien Quatennens, Mabrouk n'a pas laissé parler Adrien Quatennens.
Alors, hein, allez-y.
Je voulais ici, pour son intervention qui tombe pile après que je sois dans la panade, dénoncer cet individu, Papacito. Hein, vous riez, vous, crêpes, là. Mais on a retourné tout YouTube toute la nuit pour trouver un contre-feu. Hein, il était là, pile dans les temps, ouf. Voilà, donc honte à toi, Despacito.
Quoi, Despacito? c'est pas la même chose. Allez, la presse s'intéresse à Philippe Vardon, un ancien sympathisant néo-nazi, qui conseille le candidat du Rassemblement National, Thierry Mariani. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Un petit commentaire.
Oui, bonjour Jean-Marie. Claire.
Commentaire peut-être.
Oui, écoutez, voilà, n'est-ce pas, une bien joyeuse nouvelle. Je constate avec joie, n'est-ce pas, que le Rassemblement National retrouve enfin un peu de panache, je dirais un peu de testostérone comme leur d'antan.
Oui, enfin, c'est surtout très choquant d'avoir un sympathisant néo-nazi en directeur de campagne.
Non mais de grâce, Leclerc, ne stigmatisez pas de façon primaire les néo-nazis. Ce rejet, non, c'est très agréable. Ce rejet des néo-nazis confie de votre part au racisme, Mme Leclerc. Et puis, notez que dans sympathisant néo-nazis, il y a le mot sympathisant qui est un dérivé de sympathique. Donc tous les néo-nazis ne peuvent pas être aussi mauvais, enfin, puisqu'il y a le mot sympathisant,
oh là là,
sympathique,
oui, bon,
n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il raconte, le Vioque? Il est ma boule ou quoi qui se passe?
Bonjour Marine Le Pen.
Oui, bonjour madame. Non mais attendez, ne vous rendez pas compte, qu'est-ce qui se passe là? Ils sont en train de me rediaboliser. Il fout tout mon relooking en l'air en deux phrases. Je constate avec regret, madame, que quand mon joli métis est absent, monsieur Krebs, cette matinale n'est pas tenue.
Elle est bouffée. Alors, ça ne va pas fort pour le RN. Hein. Les exclusions de candidats au régional se multiplient. On découvre des vidéos de ce Philippe Vardon dansant sur scène avec un groupe de rock néo-nazi.
Oui, hein, écoutez, cela arrive lorsqu'on fait un peu de tri sélectif. Nous faisons un peu de tri sélectif dans nos candidats. C'est notre côté écolo. Et quant à mon Philou Vardon et le rock, sa danse de rock nazi, que dire si ce n'est qu'il est un petit peu mélomane. Est-ce si grave que cela, madame? Je vous le dis, je vous pose la question. Est-ce que c'est si grave que ça d'aimer la musique?
Oh oui, mais c'est pas le côté rock.
Si vous êtes coupable d'aimer la musique, disons-le.
Non, mais c'est pas le côté rock qui pose problème. C'est plutôt le côté néo-nazi. Hein. Thierry Mariani a une curieuse défense, d'ailleurs. Il affirme « Je trouve cela plus sympathique que des gens qui s'abrutissent sur leur tablette sans intérêt. »
Et alors là, je sais pas, je suis bien d'accord avec M. Mariani. Et mieux vaut le relire Mein Kampf, qui vient d'être réédité récemment, 18e édition, et que s'abrutir sur FIFA 2021.
Oh là 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 là.
Mais fermez-lui le micro, mais il va se taire, lui, c'est pas vrai. Madame Leclerc, j'entends. Bien sûr qu'on puisse être choqué par les bêtises de Philippe Bardon, mais je pose la question, qui dans sa jeunesse, je m'adresse à vous autour de cette table, n'a pas été assisté à des concerts néo-nazis? Moi, je me souviens, tout enfant, papa, n'est-ce pas, m'y emmenait à 7 ans.
Oui,
je confirme, je dis ça,
même
des 5 ans, n'est-ce pas?
Non, mais c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Philippe Bardon a été membre d'un groupe nationaliste blanc dont faisait partie Maxime Brunnery, qui a tenté d'assassiner le président Chirac.
Oui, écoutez, j'entends cela. Oui, écoutez, j'entends cela. Mais je pose la question, madame, autour de cette table, puisque vous êtes des gens sensés. Qui, dans sa jeunesse, n'a pas, un jour ou l'autre, tenté, de façon distraite, de tirer sur le président de la République? Mais vous savez, il faut bien que jeunesse se passe, madame.
Oh, putain, oh là 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 là.
Putain, c'est pas facile, métier d'avocat avec des clients pareils.
Ah, c'est pas facile, en effet. Allez, merci, Marine Le Pen. Allez, parlons d'autre chose. Hier soir sur M6, Julien Courbet lançait une nouvelle émission, Appel à témoins. Le but, s'attaquer aux affaires criminelles non résolues. Bonjour Julien.
Oui, bonjour Julie, bonjour Julien, bonjour Sébastien, bonjour à tous. Ici Julien Courbet, l'homme qui n'arrive pas à joindre des garagistes pour faire des constats à l'amiable, mais qui s'est mis en tête de résoudre l'affaire du petit Grégory.
Alors, vous allez vous attaquer à quelle affaire non résolue aujourd'hui?
Eh bien, ma chère Julie, j'aimerais que ce matin, l'on parle d'une disparition.
Ah bon? Bah écoutez, on vous écoute, de quelle disparition vous allez nous parler?
Une disparition étrange qui inquiète beaucoup ici à la direction d'Europe 1, c'est celle de Mathieu B. Mathieu B, présentateur de matinale, et depuis hier,
ce n'est pas très drôle
car il y a beaucoup d'angoisse dans la station, il a disparu de l'antenne, alors officiellement, je le dis bien officiellement, il est en vacances, mais franchement, qui peut croire, chers auditeurs, qu'un homme prend une semaine de vacances à 3 semaines des grandes vacances?
Mais s'il les avait posées.
Nous allons donc partir dans son garage enquêté, voir s'il n'a pas commis l'irréparable sur sa famille avant de disparaître comme Xavier Dupont de Ligonnès.
Oh non, mais il est vraiment en vacances, Mathieu Béliard.
Ah bon, vous êtes sûr?
Mais oui.
Eh bien, encore, alors, écoutez, alors, bonne nouvelle, très bonne nouvelle, j'ai enfin résolu une enquête, c'est la première, je suis ému, à vous les studios.
Nicolas Coteloup, qu'on retrouvera bien sûr demain avec Julie, va très bien, Mathieu Béliard, je vous rassure. Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Sébastien.
Quel est le programme de Culture Média?
D'abord, j'ai une question, est-ce que la bigorexie, ça vous dit quelque chose?
La bigorexie, non.
L'addiction aux sensations fortes. Et notre info média du jour s'intéresse à Reading Zone. C'est une revue consacrée au sport extrême, surf, VTT, freestyle, chute libre. On en parle avec Jonathan Politour, c'est le directeur de la publication du magazine. Ils ont fait le chemin inverse. Ils ont commencé par une émission de télé, puis un site internet, puis un magazine papier. Il va nous dire pourquoi. Au sommaire également, David Pujadas, faut-il le présenter, journaliste. C'est lui qui va animer les débats des régionales sur LCI. Et puis on parlera aussi de ses bonnes audiences, puisque LCI s'en réjouit. Il passe devant quand Pujadas c'est à l'antenne, il passe devant BFM, mais pas CNews. Et puis l'auteur de bande dessinée culte Fab Caro, Zaï, ça vous parle ou pas du tout?
Oui, la BD.
Exactement. Eh bien, son roman Le Discours, qui lui-même aussi s'était très très bien vendu chez Gallimard, est adapté au cinéma. Le film est une petite merveille, elle sort demain. Fab Caro sera avec nous.
Et on en parlait tout à l'heure avec Benjamin Laverne à 7h40.
Mais oui, en plus, c'est vrai, on va passer un petit son de Benjamin Laverne, vous avez raison.
Oui, à tout de suite pour Culture Média. Et à demain pour le 7-9. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter. Belle journée à vous.